Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Je ne sais pas si vous êtes très ambitieux ou si vous avez envie de changer de métier parce que vous vous dites que justement, votre métier ne vous plaît plus ou vous contente plus. Aujourd'hui, on va parler d'ambition, mais surtout d'anti-ambition. Je reçois Paul Douard, qui est le rédacteur en chef du magazine Vice, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Je cultive l'anti-ambition chez Marabout ». Et ensemble, on va discuter justement de l'ambition, mais aussi de contentement, de lâcher prise, beaucoup, du monde du travail, de l'éducation des jeunes. Bref, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, salut Paul.
Bonjour Grégory.
On va parler d'ambition, et plutôt d'anti-ambition. La première question que je me suis posée, c'est, le mec écrit un bouquin sur l'anti-ambition, en même temps, on t'a posé la question 15 fois, mais t'es rédacteur en chef de Vice, et puis même rien que le fait d'écrire un bouquin dans l'absolu, c'est pas exactement le truc qu'un mec qui est pas ambitieux ferait. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi?
Eh bien, c'est une excellente question qu'on m'a évidemment beaucoup posée. Eh bien, je réponds en fait souvent, c'est mon histoire professionnelle qu'on a un peu la réponse. C'est-à-dire que j'ai commencé à voir le boulot dont je rêvais comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas toujours été journaliste. À la base, j'ai fait des études de droit, j'ai travaillé dans une agence de communication, ça me plaisait pas énormément. Et à partir de là, j'ai commencé à vouloir écrire des articles pour Vice, notamment sur le monde du travail, sur le fait de lâcher prise sur certaines choses et certains aspects de sa vie. Et il s'avère que Vice m'a embauché en tant que journaliste après avoir écrit un article où j'expliquais que je détestais travailler pour faire court. Ouais. Donc j'étais plus jeune, c'était il y a bien 5-6 ans, quelque chose comme ça déjà. Et donc à partir de là, ça a été un peu un signe en me disant j'ai fait ce que n'importe quel employeur aurait probablement détesté dans le pire des cas, c'est-à-dire arriver en entretien et montrer que ma dernière prouesse a été de critiquer le monde du travail. Je pense que beaucoup de métiers m'auraient tourné la porte, m'auraient claqué la porte plutôt. Il s'avère qu'on m'a donné un travail, et un travail que je voulais depuis longtemps, et que j'avais pas réussi à faire parce que j'avais pas forcément fait les bonnes études, que voilà. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que il fallait pas forcément... C'est en attendant rien sur certains aspects de ma vie. Ça veut pas dire que je n'en avais rien à faire, mais comme je dis souvent, en lâchant prise sur certains points, je m'en suis rendu compte que ça allait déclencher certaines choses qui étaient totalement inattendues. Ce livre en fait partie, mon travail actuel en fait partie. Le livre, c'est mon éditeur qui est venu me chercher après un certain nombre de chroniques que j'écrivais. C'était absolument inattendu pour moi, encore plus qu'ils choisissent ce thème-là que j'ai traité un petit peu dans certaines chroniques, pas dans d'autres. Donc vraiment voilà, c'est toutes les belles choses au niveau professionnel qui me sont arrivées, je les ai pas cherchées, en fait je les ai pas provoquées directement. Je pense que ça a dû se faire inconsciemment en lâchant prise, en utilisant un peu mon énergie ailleurs plutôt qu'en cherchant à, on va dire, tout réussir au sens premier du terme.
Et puis peut-être aussi que, enfin, quand je t'écoute, je me dis peut-être aussi que on ne fait bien que ce qu'on a envie de faire, et quelque part, t'as même pas besoin d'avoir d'ambition pour faire ce que t'aimes faire. Et si le métier de journaliste te plaît, tu le fais bien. Enfin, potentiellement, en tout cas, si t'es suffisamment cérébré, que tu passes suffisamment de temps pour faire. Et du coup, c'est ça qui t'a permis d'avoir le poste de rédacteur en chef? Enfin, parce que t'es pas rentré directement en rédacteur en chef?
Non, pas du tout. Je suis rentré comme, simple journaliste, au poste de journaliste il y a 4 ans. Je suis resté journaliste 2 ans et demi, 3 ans. Pendant une année, j'ai géré une équipe. Alors, j'étais en dessous du rédacteur en chef. J'étais un genre de chef de rubrique, on va dire ça comme ça. Et je suis devenu rédacteur en chef en septembre dernier de Vice, donc avec 8 journalistes aujourd'hui à plein temps. Et effectivement, c'est comme tu le dis, c'est vraiment cette idée qu'une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaît, et pour le coup, je défends cette idée, et derrière cette non-ambition, en fait, c'est une manière de dire aussi, si tu découvres ce que tu aimes vraiment faire, tu vas être bon, et ça va se voir tout de suite. Et c'est là où je pense qu'on est surpris quand on fait quelque chose et quelque chose se décante d'elle-même, c'est qu'en fait on a trouvé ce qui pourquoi on est là, quoi, tout simplement, ce qui nous plaît. Ça s'est fait avec le journalisme. À l'époque, c'était un métier que je voulais faire quand j'étais au collège et on m'avait dit que c'était pas du tout pour moi. Je sais plus pour quelle raison d'ailleurs. Je crois que je ne lisais pas assez de journaux, il me semble. C'était une raison comme ça. Et effectivement, en fait, je me suis retrouvé à faire ce métier et dès le départ, ça a bien fonctionné. Et les choses sont allées de mieux en mieux justement parce que j'étais à ma place et que oui, il y a pas besoin de, comme tu me disais tout à l'heure, d'optimiser, de tout donner, presque de se surpasser en fait si on doit faire quelque chose qu'on aime en fait. C'est naturel tout simplement.
Après, évidemment, ça marche pour tous les métiers, disons, comment appeler ça, tertiaire, ou en tout cas qui utilise ton intellect. Je pense que ça marche un peu moins bien évidemment pour tous les métiers manuels, mais
absolument.
Et encore que je pense qu'un artisan à force de faire, enfin non, c'est pas encore que, il y a quand même plein de gens qui sont dans la galère, donc oui. Clairement ça marche pas du tout pour eux, mais par contre quand t'es un artisan, c'est vrai que si t'aimes bien faire, je sais pas, des pâtisseries, du pain, de l'ébénisterie, peu importe où, enfin, peu importe ce que c'est, à la fin, tu le fais hyper bien. Et c'est, enfin, ce qu'on dit des gens talentueux, c'est qu'en général, ils n'ont pas de difficultés, en fait.
Oui, bien sûr. Mais enfin, que ce soit pour un ébéniste ou un journaliste, il y aura toujours une partie technique. Il y a des choses qu'on doit apprendre à la base, mais ça fait pas tout, en fait. Je pense que quelqu'un qui n'est pas fait pour tel métier, il pourra justement donner tous les efforts du monde. Il va y arriver, évidemment, mais ce sera jamais au point de quelqu'un qui a ce petit truc en plus, c'est sa passion qu'il a pour ce métier, tout simplement, en fait.
Et alors, comment ça s'exprime en toi? Je te parlais effectivement tout à l'heure de l'optimisation. Moi, j'aime pas, même si, alors, je suis pas du tout le bon exemple parce que je fais des milliards de trucs parallèles et donc, je suis le contre-exemple de ce que je prône, ce qui est toujours assez magique. Mais bon, c'est pas très grave.
C'est normal.
C'est l'important, c'est de s'en rendre compte.
On est tous plein de paradoxes.
Plein de contradictions. Ouais, l'homme est contradictoire. Enfin, l'homme et la femme, hein, mais l'homme est, avec un grand H, si on veut dire, et contradictoire par essence, mais c'est dans la contradiction qu'on trouve la richesse.
Absolument.
On va dire. On parlait tout à l'heure d'optimisation. Moi, c'est vrai que c'est un truc sur lequel j'ai un peu de mal, parce que je trouve qu'on essaie de tellement tout optimiser, ses rencontres amoureuses, la personne avec qui on va être, son travail, enfin tout. Et j'ai l'impression que cette tendance qui est très fin 20e siècle, finalement, est un peu en train de disparaître et qu'on est plus dans ce que tu disais, c'est-à-dire laisser voir venir, prendre ce qui arrive, être beaucoup plus dans le contentement, être peut-être plus dans le slow d'une certaine manière. Comment ça s'exprime, comment c'est venu chez toi, je sais pas si c'est naturel, mais et comment ça s'exprime?
En fait, l'idée d'optimisation, moi, ça m'a toujours repoussé, et je pense déjà le premier point, c'est que si on la voit un peu disparaître petit à petit, c'est que selon moi, c'est une vision très court-termiste, en fait, l'optimisation. C'est vouloir quelque chose tout de suite, en fait, un résultat dans les semaines qui viennent. C'est un peu une réaction d'enfant pourri gâté, je trouve, l'optimisation. C'est je veux être comme ça, je veux faire ça, mais il faut que ça arrive tout de suite. Mmh. Je pense que c'est foncer dans un mur d'agir comme ça. Et je reviens là-dessus, j'ai que 30 ans et tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, pas que professionnelle, d'heureux, c'est justement quand j'ai arrêté, en fait, de chercher la bonne personne, d'essayer de faire en sorte que c'est avec celle-ci que ça marche très bien alors que ça marchait pas, que mon boulot, c'était ce boulot que je rêvais. Et en fait, non, il faut déjà accepter que les choses ne fonctionnent pas, parfois, comme on le souhaite. C'est aussi ça, arrêter avec l'optimisation, c'est de se dire que, entre guillemets, tout peut pas être parfait comme on le souhaite, mais c'est en acceptant cette idée que des choses sont incontrôlables. C'est comme ça, on peut pas tout contrôler dans nos vies professionnelles, sentimentales, à tous les niveaux. qu'on va débloquer certaines choses, tout simplement, en fait. Moi, l'optimisation, je sais que j'avais écrit plusieurs chroniques à ce sujet qui étaient un peu moqueuses sur certaines personnes qui étaient vraiment obsédées pour tout, qui étaient au gramme près de leur corps, à leur réussite professionnelle, mais d'un point de vue vraiment, je dirais, contrôle fric. Enfin, c'était vraiment, ça me faisait vraiment peur, en fait. Et moi, je voyais pas ma vie comme ça. Et pourtant, de l'autre côté, j'avais envie de faire plein de choses. Ce livre que j'ai écrit, oui, j'avais déjà rêvé avant de me dire ça doit être hyper sympa d'écrire un livre. Mmh. Oui, c'est hyper sympa. Mais c'est arrivé parce que je me suis un peu plus écouté moi et pas forcément... je me suis pas vu comme un produit, en fait, tout simplement, qui devait être meilleur chaque jour. Et je me suis dit, bah non, en fait, je suis que ça. Qu'est-ce que je peux faire? Et en partant de là, bah, en fait, il s'est passé des choses bien plus agréables et heureuses que si j'avais souhaité persévérer dans tous les domaines.
Et tu crois que les gens, c'est... Alors, quand j'écoute ce que tu me dis, je me dis, pour les gens qui écoutent, en tout cas, est-ce que les gens ne s'écoutent pas assez pour faire ce qui leur plaît vraiment? Est-ce qu'ils ont des peurs? Comment on fait pour se contenter de ce qu'on a, entre guillemets? Ou peut-être que, parce que, effectivement, lié aux réseaux sociaux, lié aux médias, de manière générale, et on pourra parler aussi de Vice, hein, mais il y a une image qui est projetée de ce que c'est que le succès, quelque part, même si on voit de plus en plus de gens qui quittent leur job, leur dream job, ou en tout cas des gros salaires potentiellement pour aller vers du développement personnel, du yoga. Enfin, donc on voit bien qu'il y a un mouvement quand même qui est en train de se faire, alors qui est dans un microcosme, j'en ai conscience évidemment, urbain, CSP+, machin, mais bon, il existe et donc il est significatif pour moi. Il donne du sens à un mouvement qui est potentiellement plus large. Ce que tu dis donc, c'est que les gens, ils doivent juste faire avec ce qui vient à eux, en fait. C'est la meilleure manière de faire. Enfin...
Je pense que c'est... On peut chercher des choses et espérer des choses. Il ne faut pas non plus dire qu'on s'en fiche, on attend sur notre canapé que la vie passe, et s'il se passe quelque chose, c'est bien, sinon tant pis. Non, je pense que ce serait triste d'être dans cette optique, mais l'idée est plus qu'il faut faire la part des choses entre ce qu'on nous pousse à devenir. Et effectivement, là, la société est très violente à ce niveau-là, je trouve, au niveau du succès. Au niveau de gagner de l'argent, au niveau de... Il faut être beau, il faut être... voilà, ça, c'est quelque chose de pas nouveau. Je pense que s'il y a un mouvement, comme tu dis, qui est très CSP+, parce qu'effectivement, quitter un job très bien payé pour faire autre chose...
Mais il faut avoir le job très bien payé.
Voilà, il faut déjà avoir le job très bien payé à l'avance, avoir les moyens de le faire, avoir les moyens de faire ce choix. Et ouais, effectivement, plein de gens ne peuvent pas le faire. Mais effectivement, si une grosse partie de la population qui est dans cette catégorie-là... Le fait, c'est qu'il y a bien une raison. Le fait est que peut-être que, on va dire, la réussite matérielle, financière n'est pas ce que recherche tout le monde. Des gens sont heureux en la trouvant, d'autres se rendent compte que non. Qu'on ne traverse pas toute la vie, je pense, en juste gagnant de l'argent. Voilà, je me rends compte, moi j'ai écrit un livre, on ne devient pas milliardaire en écrivant des livres, sinon ça se serait, enfin ils sont 5 dans le monde.
C'est ça.
Mais pourtant, j'ai eu un plaisir incroyable à le faire et j'ai aucun regret. Donc, je pense qu'il faut s'écouter. J'ai vraiment cette discussion avec beaucoup de personnes qui ont du mal à... Enfin, je pense que c'est qu'il y a beaucoup de gens de se dire... On entend des amis dire « Oui, j'aimerais bien faire ça, mais j'ose pas parce que j'ai mon boulot, parce que je suis... » Et en fait, il y a un truc du... Le changement fait un peu peur à ce niveau-là et c'est, je pense, dommage... Parce que je vois beaucoup de gens qui sont assez malheureux dans des situations, justement, un gros salaire, un métier qui, à la base, faisait rêver, mais n'osent plus partir de ça, en fait. Parce qu'il y a cette idée d'avoir tout optimisé, à la base, d'avoir que tout soit parfait, financièrement, matériellement, sentimentalement aussi. J'avais écrit un article sur ces... Moi, j'estime des couples qui fonctionnent comme des startups et qui étaient vraiment l'optimisation poussée à l'extrême dans son couple. Et de se rendre compte à la fin, bah, j'ai tout optimisé, mais il manque un truc. Manque un truc. Et les gens n'arrivent pas à le savoir. Et c'est pour ça, je pense, qu'ils chamboulent tout, qu'ils claquent la porte, qu'ils arrêtent leur boulot. C'est qu'ils se rendent compte que ça ne suffit pas, en fait.
Non.
Et qu'il ne suffit pas d'empiler des choses. Je pense que c'est surtout ça, en fait.
J'ai reçu une journaliste aussi, Lily Barbery-Coulon, l'épisode 95, où elle explique que justement elle avait coché toutes les cases comme ça, tu vois, faire des enfants, se marier, avoir le bon job, avoir la vie de rêve, être influenceuse, enfin peu importe toutes les cases que tu peux causer, et que tous les soirs elle rentrait, elle pleurait, et que finalement t'avais beau cocher toutes les cases, c'est comme la Ariana, c'est la fondatrice du Huffington Post qui a fait le même constat, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Thrive, où en fait elle dit je comprends pas, on m'avait dit que pour être heureuse fallait être riche, avoir des enfants, avoir un mari, machin, ça y est, j'ai coché toutes les cases. Et bon, le constat, c'est que je suis malheureuse, en fait. Donc,
Et ça m'étonne pas du tout comme constat. Enfin, c'est quelque chose de... Je pense que beaucoup de personnes le vivent. C'est un débat qui est très compliqué parce que beaucoup de personnes en France vont estimer que c'est un problème de riches.
Ouais, bien sûr.
Et ça l'est. C'est clairement ça. Mais ça veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est deux choses différentes. Mais du coup, c'est un débat qui est difficile à tenir dans certains milieux.
Ouais. Et peut-être que ça peut dire simplement que la promesse, enfin en tout cas le récit, moi j'aime bien parler de récit, mais le récit du XXe siècle qui est que le bonheur est associé à la réussite, au fait de posséder, etc. Et en fait déjà, on se rend compte qu'il est faux, enfin tu vois ce que tu décris c'est que c'est faux, et c'est ce que décrit Lily ou Ariana à différents niveaux. Rien n'est un milliardaire, tu vois, au moins un multimillionnaire, on va dire.
Bien sûr.
Donc, mais à différents niveaux. Donc déjà, ce récit, il est faux. Et en fait, ça peut être difficile parce qu'il est socialement accepté, ce récit, quand même. C'est le principe d'un récit social. Donc c'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'en même temps, on n'a pas d'autres récits.
Je pense que c'est la facilité, en fait. C'est-à-dire que quand on ne sait pas ce qu'on aime réellement et qu'on ne sait pas exactement ce qu'on sait faire, parce que je reste persuadé, moi, alors ça... Ça m'engage que moi, et c'est peut-être naïf, mais que chacun a au moins quelque chose qu'il sait très bien faire.
Ouais, bien sûr.
Moi, je le remarque autour de moi. Je trouve que tous mes amis, toutes les personnes que je connais ont quelque chose dont ils sont vraiment doués, et quand ils en parlent, ça se ressent. Et je pense qu'en fait, cette optimisation, ce cumul matériel de vouloir tout posséder, d'avoir le mari, la femme parfaite, la maison parfaite, le boulot sympa... Et ben en fait, je pense que c'est une forme de fuite aussi, parce que c'est facile. Quand on ne sait pas, on empile les choses. Quand on ne sait pas, on achète des choses. Moi, quand je suis stressé, angoissé, j'achète des choses, en fait. Voilà, c'est comme ça, parce que ça me détend.
Rassure.
Voilà, ça rassure. Je me dis, oh, ça va, j'ai acheté des fringues. Voilà, super. J'ai acheté un troisième ordinateur, c'est génial. Ça ne me sert pas à grand-chose, ça ne règle pas le problème. Mais donc, je pense qu'il y a de ça aussi, c'est que c'est... On est moins dans cette optique une fois qu'on sait ce qu'on veut, en fait. Et le problème... C'est un problème oui ou non, c'est que ça peut prendre du temps. Voilà.
Et alors du coup, comme tu bosses chez Vice, je me pose la question, c'est quoi le rôle des médias ? Alors pas forcément que de Vice, mais Vice c'est quand même une cible plutôt jeune, je connais pas bien la cible de Vice, mais j'imagine que c'est plutôt 15-24.
Un peu plus quand même, plutôt 18-25-30.
D'accord. C'est quoi le rôle des médias dans ce récit, en fait, parce que quelque part, si ce récit existe, c'est aussi parce que les médias le colportent naturellement. C'est-à-dire qu'on envoie, ce que je te disais, j'ai lu une étude sur des lycéens, et quand tu leur demandes ce qu'ils voudraient faire, il y en a quand même pas mal qui lèvent la main pour être influenceur, ce qui est quand même assez fou, comme parce que c'est pas un métier, en fait.
C'est totalement fou, mais je pense que c'est une réponse à, alors, qui est liée aux médias aussi, parce que les médias sont une sorte de un sorte de miroir de la société aussi. Donc je pense que pour cette étude, il y a quelque chose que beaucoup de médias développent, c'est le mal-être au travail aujourd'hui, au XXIe siècle, et que oui, si j'avais 15 ans aujourd'hui, j'ai clairement pas envie d'être dans un open space ou dans un bureau, et donc je me dis qu'est-ce que j'aurais envie de faire. Moi, je vois mes parents qui sont dans un bureau, qui sont tristes et fatigués,
ouais.
Et à l'inverse, je vais sur Instagram, je vois des gens jeunes, riches et qui sont en voyage tout le temps. La réflexion, elle est assez vite faite, on va dire ça comme ça. Après, pour le rôle des médias, je pense que on essaye de... Je parle que pour Vice, je me permettrai pas de parler pour les autres. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir beaucoup de témoignages pour montrer aussi d'autres styles de vie. Des personnes qui ont fait un choix différent, qui ont changé de vie, qui font autre chose. Essayer de montrer un peu de simplicité et de beauté dans des choses qui, longtemps, ont pu paraître futiles. Et qui sont loin du travail, qui sont loin de la réussite financière. Je pense que les médias devraient plus se pencher là-dessus, vraiment sur essayer de montrer qu'il y a autre chose que la réussite, parce que pendant longtemps, moi je sais que j'ai pas été très heureux pendant mes études, justement parce qu'il y avait cette pression de la réussite, et qui était partout dans les médias. Tous les ans, si on achète le magazine Challenge, voilà, on a le top 10 des écoles, le top 10 des universités américaines. C'est bien, mais ça met la pression à des millions de jeunes. Je pense que si on parlait d'autre chose, qu'est-ce que vous avez envie de faire, tout simplement, et de montrer aussi qu'il y a des jeunes qui ont fait autre chose, qui sont ni influenceurs, ni traders, et qui sont très heureux. Et je dis pas qu'il n'y a pas d'influenceurs heureux, ni de traders heureux, bien sûr, il y en a, c'est
sans
évident,
doute.
J'en connais. mais voilà, il faut parler d'autre chose, et là-dessus, avec Vice, c'est ça que j'ai envie de montrer. Alors, on a une cible et on a une ligne éditoriale un peu particulière, forcément. Mais vraiment, on s'attache à montrer une jeunesse qui a envie d'autre chose, on va dire ça. Voilà.
Ça fait un peu penser à La sobriété heureuse, tu vois, le bouquin. Mais la question que je me pose, c'est comment, du coup, le public de Vice réagit à ces profils alternatifs, si on peut dire, mais alternatifs par rapport au récit ambiant, mais... C'est pas vraiment alternatif.
C'est toujours difficile d'avoir la réaction des gens quand on est un média en ligne, parce qu'on ne peut pas vraiment se fier à des commentaires Facebook.
Ouais, juste
oui,
peut-être,
mais par rapport au nombre de personnes qui vont lire l'article et pas commander, c'est pas vraiment représentatif. Je pense que il y a deux choses. Il y a une partie qui nous remercie de parler de certaines choses, de parler de certains jeunes qui ont quitté ce boulot, de certaines formes de travail aujourd'hui qui existent et qui sont pas assez développées en France. Ça peut être le télétravail, ça peut être ce genre de choses qui sont encore très frileuses en France. Ça, moi je sais que j'aime bien en parler. Le travail, c'est vraiment un domaine que j'apprécie. Je parle en tant qu'étude. Et de l'autre côté, il y a une autre partie des jeunes qui, eux, vont être un peu agacés, je pense. Et pas qu'ils se sentent trahis, mais comme si on arrivait trop tard en tant que média et qu'on leur disait aujourd'hui, bah, il fallait le dire avant, en fait, vous le dites aujourd'hui, alors que vous-même, vous êtes dans des bureaux, et je pense qu'il y a toujours cette forme de défiance envers des médias où on va nous dire, vous faites la morale sur certains points, et en même temps, vous la mettez pas en pratique, ce qui est entièrement vrai pour plein de choses,
ouais.
Mais pour moi, c'est pas, l'un n'empêche pas l'autre. Par mon métier, je peux parler de certains sujets, que par exemple la direction de Vice ne voudrait pas mettre en pratique, c'est deux choses différentes. Moi j'ai la liberté de pouvoir en parler, je le fais. Si c'est pas en pratique là où je travaille, tant pis, mais après je pense que ça, voilà, il y a un peu cette hypocrisie peut-être qui est, on va dire, démasquée par certains, on va dire ça comme ça. Et de l'autre, je pense vraiment il y a des gens qui sont vraiment contents de lire autre chose que un récap du discours d'Emmanuel Macron, la tendance de la bourse et le top 10 des meilleures écoles de commerce. Je pense que heureusement il faut parler d'autre chose, et oui, c'est le rôle des médias, et je termine sur cette question là-dessus, c'est que le rôle des médias est pas exclusivement de raconter l'actualité, en fait. Faut aussi, ça c'est vraiment quelque chose que moi j'essaye de faire avec Vice, et je pense que notre lectorat aime bien ça. Il y a beaucoup de sujets qu'on ne traite pas parce que les autres le font. Et justement, cette idée de l'actualité, non, en fait, en tant que média, on devrait prendre le temps, en fait. On n'est pas là pour faire des dépêches et vomir de la news toute la journée. Je pense que il faut prendre le recul sur certains sujets et montrer ce qui se passe, essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire de mieux. Et après, les gens l'accueillent comme ils le souhaitent. Mais là, je pense qu'il y a un rôle majeur qui, justement, a été un peu perdu ces derniers mois, dernières années, je pense.
Je pense
récemment.
Que c'est un peu la... On peut faire une analyse des médias comme ça là, mais moi, pour moi, il y a vraiment une sorte de course à l'échalote du tweet, du rebondissement, de qui arrive à rebondir avec la petite phrase le mieux, le plus rapide sur un sujet d'actualité. Et effectivement, on perd complètement le fond, parce qu'en fait, on cherche tellement l'audience que le fond n'y est plus. Et d'ailleurs, de toute façon, enfin, on en discutait tout à l'heure, mais les gens lisent de moins en moins, donc c'est pas très grave, parce qu'ils regardent les titres et ils partagent des titres, que ce soit sur Twitter, Facebook ou autre. Donc en fait, le fond finalement est pas si important.
Absolument, il y avait ça, il y avait un article très drôle que j'avais vu passer sur, c'était statistique sur les gens qui retweetaient le New York Times et le New Yorker, et que je crois que c'était 80% ne lisaient pas l'article, en fait. C'était par pur...
C'est bien de retweeter,
c'est juste comme ça. Et donc c'était assez amusant, et donc effectivement, pour rebondir là-dessus, et je pensais à ta question précédente, je trouve qu'on en revient toujours à cette idée d'optimisation, parce qu'en fait, dans les médias, cette course à l'audience, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est du court terme, en fait. C'est qu'on veut des résultats tout de suite, on va pouvoir dire, regardez, on a fait 30 millions de vues ce mois-ci, super, mais qu'est-ce qu'on fait le mois prochain, on ne sait pas. Est-ce que ce qu'on a fait est bien et avait un sens, est-ce que ça a été utile, on ne sait pas. Donc pour moi, c'est la même chose que ce dont on discutait dans la vie des gens au niveau professionnel, dans leur vie privée, c'est cette idée court terme, en fait. C'est, il faut que les choses aient un résultat tout de suite. Je veux un résultat immédiat. Et c'est dommage parce que la vie est longue et que elle est, j'estime et j'espère qu'elle est belle jusqu'au bout et qu'il y a plein de choses à faire.
Est-ce que tu penses que c'est un paradigme qui est en train de bouger, ça? Parce qu'en fait, court terme, c'était une idée encore aussi très fin 20e, c'était très lié à l'après-30 glorieuse. Est-ce que tu penses qu'on est en train de rebalancer sur un... Parce que c'est vrai qu'on est là, on n'est même plus dans le court terme, on est dans le micro terme, quoi. C'est vrai que on est vraiment à l'espace d'un tweet, quoi, ou d'une story.
J'ai peur que non, qu'on y soit pas encore. Déjà, puisqu'on est quand même dans une société qui est, on va dire, noyée sous les influenceurs en tout genre. Et je pense que l'étude dont tu parlais tout à l'heure fait un peu peur parce que c'est un métier qui peut être d'une certaine manière aussi très à court terme, où des gens vont avoir beaucoup de succès très vite, mais ça peut aussi disparaître très vite. Ouais. À la base, ça a été... était réservé à des artistes, on va dire ça comme ça. Mmh. Aujourd'hui, ça rentre un peu dans le cadre de Monsieur et Madame Tout-le-Monde.
Ouais.
Bien sûr qu'il y a des influenceurs qui sont très intéressants, qui présentent des choses très intéressantes. D'autres, voilà, il y en a pour tout le monde. Chacun écoute et lit et regarde qui il veut. Mais du coup, je serais pas aussi positif. Je pense que ça peut arriver. Je pense que ça va arriver quand peut-être la génération qui a grandi avec tous ces influenceurs va peut-être voir le poteau rose, si je puis dire, et que c'est pas aussi simple, que c'est pas aussi incroyable que d'être influenceur et de passer ses journées à faire des photos Instagram retouchées 8000 fois. Bien sûr que c'est sans doute plus agréable que d'être dans une usine de jambon, mais voilà, c'est... Encore une fois, je pense que ça va pas arriver tout de suite. Je l'espère, je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on a plus de chances d'y arriver en réfléchissant vraiment sur nos manières de concevoir le travail, de comment on travaille, de est-ce qu'on est obligé d'être le meilleur à chaque fois, est-ce qu'on a besoin de cette course à l'optimisation, à la performance sans cesse. Je pense qu'on est plus en avance là-dessus, sur ces sujets en ce moment, que sur vraiment quelque chose de on va vraiment penser à long terme. C'est pas simple parce que c'est quelque chose qui s'inculque très tôt.
C'est de l'écologie, hein, d'ailleurs. Enfin, ouais. Si on élargit le sujet.
Absolument.
Et alors, du coup, ton objectif, enfin, j'aurais dû te demander ça bien avant, mais l'objectif que t'avais pour le bouquin, c'était quoi? C'était de passer ce genre de message? Enfin, c'était quoi l'idée? Parce que c'est un bouquin qui est hyper accessible, c'est assez drôle.
Eh ben, écoute, l'idée était de, à la base, cette idée d'anti-ambition, je l'avais traitée que pour le monde du travail, en fait.
Ouais.
Puisque j'avais, comme je disais au début, j'avais montré que c'était en lâchant prise, en arrêtant d'essayer d'être le meilleur, que bah, j'avais obtenu un peu des choses plus agréables et plus sympas pour moi au niveau professionnel. J'ai voulu en fait montrer que c'était valable pour tout, un peu comme la discussion qu'on a là sur tout ce qui est optimisation, le contentement, c'est-à-dire que c'est pas lié à un seul pan de notre existence. Je pense que c'est valable pour tout. C'est ce que j'ai voulu faire avec le livre, évidemment de manière humoristique, avec un style un peu cynique, je l'admets totalement, que ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est évident, mais c'est toujours le style que j'ai eu, et vraiment de montrer que c'est valable pour tout, et c'est pour ça que j'en parle dans la vie sentimentale, dans le travail, dans des relations qu'on peut avoir avec des gens, parce que c'est valable partout. Je pense que c'est vraiment une question de comment on envisage sa vie, et ça prend du temps, je pense, d'avoir conscience de tout ça, d'accepter, en fait. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment d'accepter qu'on ne contrôle pas tout, en fait. Et c'est pas grave. Et ça veut pas dire que ça va mal se passer, en fait.
Non, c'est
ça veut juste dire que... Mais c'est presque... Ça m'étonne presque de le dire, parce que ça, mon livre s'appelle « Je cultive l'anti-ambition », mais c'est presque un discours qu'on pouvait retrouver aussi dans des gens qui montent des entreprises et des startups et qui disaient « Il faut échouer, en fait. Bah, » Mais l'échec fait partie de la construction, et je pense que l'idée de fond, qui est évidemment pas du tout rédigée de la même façon ou présentée de la même façon, c'est ça, en fait, c'est qu'il faut accepter que parfois ça foire, que parfois on merde, que parfois on s'est trompé, et que c'est pas grave, en fait.
Bah non, parce que c'est comme ça que t'apprends. Enfin, voilà. C'est surtout dans les expériences.
Mais ça, on en revient à ce qu'on disait juste avant, c'est une vision à long terme, en fait. Ouais. Et c'est difficile de l'avoir dans une situation dans une société, qui est difficile, qui est un peu violente. On a envie que ça aille mieux tout de suite, en fait.
Ouais, c'est
donc c'est là où c'est compliqué, et c'est ce que je disais dans mon livre de manière un peu humoristique, mais pour moi, au lieu d'apprendre à tout le monde à être heureux, donner des cours, d'écrire des livres sur comment être heureux, parce que je trouve qu'il n'y a pas de méthode, c'est propre à chacun, je pense qu'on devrait essayer d'apprendre aux gens à accepter parfois d'être mal Et c'est pas négatif quand je dis ça. Je pense qu'au contraire, c'est en acceptant ces moments de vide où les choses foirent, on a eu un échec, et ben en fait, tout ira mieux après, en fait, parce qu'on va savoir rebondir, on va savoir ce qu'on veut derrière, et que pour moi, on peut pas chercher un bonheur tout
de suite.
Une
sorte de bliss permanent.
Oui, voilà, exactement. C'est, en fait, c'est pas possible, je pense. Pas directement.
Non, bien sûr.
Mais je me suis peut-être égaré là, sur cette question, je ne sais pas.
Non, non. Et alors, du coup, ce podcast s'appelle Loveland. Donc, j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Et où claquer la porte, comme tu veux.
Ah là là, difficile. J'aimerais beaucoup claquer la porte à de nombreuses choses dans le monde du travail. parce que c'est un combat que je mène depuis longtemps, mais... Si je pouvais claquer la porte au présentéisme en France, par exemple, c'est un truc qui me donne des vertiges, si je puis dire, à ce point. C'est vraiment assez compliqué. Je pense que ça fait de mal à beaucoup de gens. Je pense pas que les gens soient plus performants à ce niveau-là. Je pense pas que les entreprises tournent mieux parce qu'on flique les gens du matin au soir. Je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, c'est...
La confiance
et donc du long terme. Et donc, c'est pas parce que les gens sont là toute la journée qu'ils travaillent mieux. Et il faut penser à est-ce qu'ils travaillent bien? Est-ce qu'ils ont envie de le faire? Et voilà. Et évidemment, encore une fois, ce n'est pas possible dans tous les milieux, évidemment. Mais ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'aimerais claquer la porte. C'est vraiment ça, ce présentéisme arbitraire et un peu forcé qu'on a beaucoup trop en France et qui, pourtant, est beaucoup moins développé, on va dire, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre, où on trouve d'autres manières de travailler. Voilà. Et ouvrir la porte à un lâcher-prise général. Voilà, ça ne veut pas dire...